Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons de la dynastie abbasside, de l'empire abbasside. Pour certains, c'est l'un des plus grands empires que les hommes aient connus, peut-être l'un des plus grands. On a parlé même d'un empire monde dont la capitale était Bagdad. Et pour évoquer donc l'histoire de cet empire sur 5 siècles, de 750 à 1258, j'ai plaisir d'accueillir le professeur Gabriel Martinez-Gros.
Bonjour.
Bonjour et je suis extrêmement heureux de vous accueillir. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Vous êtes historien, auteur de nombreux ouvrages retraçant l'histoire de l'islam dit médiéval, mais pas uniquement. Et vous êtes un fin connaisseur des empires, et tout particulièrement les empires islamiques. Et c'est pour ça, et je vous en sais gré, vous nous avez fait l'amitié de répondre à l'invitation pour parler de l'empire abbasside. D'ailleurs, l'ancêtre éponyme des Abbassides, c'est qui? Et qu'est-ce qu'on connaît des Abbassides?
Ah, alors, l'ancêtre éponyme des Abbassides, c'est Al-Abbas, c'est-à-dire l'oncle du prophète. Hein. Le prophète n'a pas eu de frère, ses parents sont morts jeunes, mais en revanche, son père, puisque nous sommes dans une société arabe patrilinéaire qui privilégie le côté paternel de la famille, son père avait deux frères. Et ces deux frères et leurs descendants ont joué évidemment un rôle tout à fait important dans la naissance de l'islam, puis dans son développement. Ces deux frères, c'est Abu Talib d'une part, c'est-à-dire le père d'Ali. C'est-à-dire que cette lignée-là va donner évidemment le chiisme en fait. Hein. Et l'autre frère, c'est précisément Al-Abbas, c'est-à-dire l'ancêtre de la dynastie qu'on appelle précisément Abbasside. Alors qu'est-ce qu'on sait des Abbassides ? Qui sont arrivés au pouvoir. Vaste question. Qui sont arrivés au pouvoir en 750, d'abord, c'est-à-dire au terme de ce qu'on appelle souvent une révolution, en renversant, en tout cas, violemment, la dynastie qui les avait précédés, c'est-à-dire la dynastie des Omeyyades, qui régnait pratiquement sur l'islam depuis ses origines, c'est-à-dire depuis la fin de ce qu'on appelle l'époque des Rachidounes, c'est-à-dire des quatre califes bien guidés. Au-delà de cette époque des Rachidounes, c'est-à-dire en 660, une trentaine d'années après la mort du prophète, les Omeyyades s'emparent du pouvoir et le conservent jusqu'en 750, jusqu'à ce que les Abbassides les renversent. Alors, il y avait quelque chose de paradoxal.
Oui, enfin, la fameuse bataille du Grand Zab, et ceux qui sont, c'est vous qui connaissez ça mieux que moi, le 25 janvier 750, il y a cette bataille-là mettra fin définitivement à la dynastie Omeyyade.
Voilà, absolument. Alors, il y avait quelque chose de paradoxal dans ce gouvernement des Omeyyades. C'était indiscutablement une très grande famille de la tribu des Quraysh, c'est-à-dire de la tribu dominante de la Mecque et la tribu d'où le prophète était originaire. Mais cette famille des Omeyyades avait pour l'essentiel repoussé l'appel de l'islam à ses débuts, et même son chef, Abu Sofiane, avait dirigé la résistance des Mekois contre les musulmans. Il y avait donc quelques paradoxes, malgré le rôle.
Ce sont les convertis de la dernière heure.
Ce sont les convertis de la dernière heure, des convertis très, très actifs, puisqu'ils ont joué un rôle majeur dans les conquêtes. C'est ce sur quoi ils insistent, eux, c'est-à-dire sans doute, nous avons commis au départ l'erreur de ne pas croire, mais nous avons racheté cette erreur par le rôle que nous avons joué pour l'expansion de l'islam, dans les conquêtes de l'islam. L'un des très grands généraux de l'islam, le conquérant de la Syrie, Khalid ibn al-Walid, était très proche des Omeyyades et avait fait partie de ce parti Omeyyade, précisément assez sceptique au départ à l'égard de l'islam. Mais il y avait une tache d'illégitimité, une macule d'illégitimité sur la robe des Omeyyades. Et c'est de cette macule d'illégitimité que vient la violence la révolution abbasside. En fait, les Abbassides, au départ, jouent sur le même sentiment en général que les chiites, un sentiment simple, clair. Le prophète a fondé cette religion et cette nation. Et donc, c'est à ses descendants que doit appartenir la domination et la conduite et la guidance, tout simplement, de l'islam. C'est ce qui va donner le chiisme. Et c'est ce qui donne aussi aux abbassides le pouvoir, sinon que les abbassides vont peu à peu se détacher de cette sensibilité qu'ils partagent avec le chiisme au départ, pour devenir au contraire la dynastie centrale de l'islam et exprimer le sentiment majoritaire des musulmans sans doute dès le 9e siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sunnisme.
Gabriel Martinez Gros, il n'y a pas un autre paradoxe? Vouloir coûte que coûte faire de la prophétie, ne serait-ce que sur la partie temporelle, une dynastie, et disputer aux futurs chiites donc la légitimité de la descendance via Fatima, sa fille, et Ali, et vouloir l'arrimer du côté de l'oncle Abbas, qui donnera donc les Abbassides.
C'est précisément l'un des arguments que, encore au XIe siècle, 4 siècles après les événements, hein, on échange. C'est-à-dire, en effet, les deux oncles, Al-Abbas et Abu Talib, sont à égalité. Donc Ali et les Abbassides, les chiites et les Abbassides sont à égalité de légitimité. Mais Ali a une petite légitimité supplémentaire qui est Fatima. Car en effet, Ali avait épousé la fille du prophète et les deux fils d'Ali, qu'il a eu de Fatima, j'entends, il en a eu beaucoup d'autres femmes, mais les deux fils qu'il a eu de Fatima, Hassan et Hussein, sont les deux seuls petits-fils du prophète qui n'a malheureusement eu qu'une descendance très très réduite.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on disait du prophète, ses détracteurs l'appelaient l'amputé, parce qu'il n'avait pas une descendance mâle.
Absolument.
Il me semble aussi, Gabriel Martinez Gros, que parmi les mécontentements, les choses qui ont suscité le mécontentement de la population, c'est que les Omeyyades ont laissé le pouvoir concentré dans l'élément arabe de la dynastie et n'ont pas tenu compte des, le terme arabe étant mawali, donc les clients.
Tout à fait, les clients.
Et voilà, en dépit des sermons du prophète pour l'égalité de l'ensemble des croyants.
Oui, voilà, il y a un problème très très considérable. Ce problème très considérable tient à ce que l'islam est à la fois une religion et un empire, hein, dans ses premiers moments, dans ses premiers siècles, dans ses premières générations, et que un empire, ça suppose d'immenses richesses. Qui se sont abattus, si j'ose dire, sur ces Arabes et musulmans très pauvres. Ils ont conquis un territoire immense, une population qui est probablement 50 ou 60 fois supérieure à celle de l'Arabie, et une population qui désormais travaille pour eux. Hein. Et donc, tout élargissement de l'islam supposerait un partage des bénéfices, hein, disons-le franchement. Au départ, les Arabes musulmans ne tiennent pas du tout à ce que les conversions se multiplient parmi leurs sujets, parmi leurs vaincus. Hein. Ce serait donner à des descendants de vaincus le privilège que les Arabes ont conquis dans tous les sens du terme en réussissant la conquête des terres du Proche-Orient.
Puisque vous dites est étonnant par rapport à maintenant, c'est-à-dire que l'intérêt n'est pas de propager la foi de Dieu, etc. C'est simplement, ce sont des hommes qui ont voulu être des monarques et puis bénéficier des biens terrestres aussi.
Je crois que dans l'esprit des Arabes de ce temps, les choses se séparent mal. Hein. La vérité par excellence de la religion de Muhammad tient à ce que on a réussi les conquêtes, on a réussi à abattre ces fameux deux empires dont nous n'avons pas parlé d'ailleurs, c'est-à-dire à la fois l'empire byzantin en large part, c'est-à-dire l'ancien empire romain si vous voulez, et surtout l'empire perse qui est lui totalement abattu, l'empire byzantin va subsister, amputé de l'Égypte et de la Syrie en particulier, aussi de la Tunisie actuelle, l'empire perse lui est totalement abattu, il est totalement conquis. Et la conquête de ces deux empires qui apparaissaient tellement puissants, tellement gigantesques aux petites tribus de l'Arabie est la preuve par excellence au total hein, de la véracité de la prophétie de Muhammad.
On est au milieu du 8e siècle, la dynastie sera fondée en 750, vous l'avez dit, par un certain... Le sanguinaire, on le surnomme ainsi,
Al-Safar.
Et après, donc, c'est parti ainsi. C'est son fils qui va fonder la ville de Bagdad.
C'est son frère. C'est Abou Ja'far
al-Mansour.
Voilà, c'est son frère. C'est intéressant, hein, c'est important ce que vous disiez il y a un instant. C'est-à-dire que le soulèvement qui va amener au pouvoir les Abbassides est né en Iran. Hein, et les Iraniens vont jouer... en tout cas, les ennemis des Abbassides, en particulier ceux qui subsistent parmi les Omeyyades et qui se sont réfugiés en Espagne, les Iraniens vont jouer un rôle décisif dans la construction de l'Empire Abbasside. En effet, cet empire existe vraiment ou n'existe vraiment qu'à partir du moment où sa capitale est fondée. Et cette capitale, tout à fait exceptionnelle, bien sûr, hein, une des très grandes villes de l'histoire de l'humanité, et sans doute...
Sur un modèle spécifique, rond.
Sur un modèle rond dont on pense qu'il est hérité de l'Iran, c'est Bagdad. Hein, c'est Bagdad qui est fondé en 762. Bagdad est d'ailleurs son nom iranien, si j'ose dire. Hein, il semble que le sens en soi, Dieu l'a donné. Hein, voilà, c'est Bagdad. Son nom officiel, c'est Medinat Salam, c'est-à-dire la ville de la paix. Mais tout le monde l'appellera de fait Bagdad. Et c'est une ville effectivement décisive hein, dans l'histoire de l'islam, parce que, en fait, et en particulier, c'est là que se fonde le sunnisme. Le sunnisme se fonde au IXe siècle parmi les hommes de religion, on va les appeler comme ça, ou les juristes de Bagdad, dans la résistance au pouvoir. Hein, c'est un point important. On souligne souvent le caractère presque irénique, volontiers soumis aux influences du pouvoir du sunnisme. Il faut dire tout de même que le sunnisme est né contre la volonté du pouvoir abbasside au départ, hein, qui est en effet attaché à un sentiment chiite de possession de l'islam par la famille du prophète. L'opposition de ces hommes de religion à un pouvoir qui veut imposer son interprétation du dogme, qui veut imposer une interprétation d'État. Hein, si vous voulez, du dogme, qui veut en outre imposer, parce que c'est le grand calife Al-Mamoun, très amateur des sciences grecques, on y arrive, qui veut le faire, qui veut imposer en particulier une interprétation du Coran qui passe par un vocabulaire hérité de la philosophie grecque. Le christianisme avait d'ailleurs connu les mêmes problèmes ou le même dilemme au 5e siècle, sinon que le christianisme avait un avantage, si j'ose dire, je ne sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas une particularité au regard de l'islam, c'est que les évangiles sont en grec. Et donc, commenter en grec un texte grec avait moins de, ou offrait moins de problèmes, de difficultés, que de commenter en grec ou avec des mots directement tirés de la philosophie grecque, un texte arabe, bien entendu, qui lui est totalement étranger, la philosophie grecque. Et donc, en fait, la réaction des hommes de religion ou des juristes, qui entraîne une large part de la population de Bagdad, Bagdad va devenir une des villes, un des bastions de ce qu'on va appeler le sunnisme, fait reculer le pouvoir et finalement donne à l'islam son caractère d'aujourd'hui, c'est-à-dire que personne, sinon la parole du prophète par le biais du hadith, hein, personne n'est autorisé à interpréter le corpus des textes sacrés. C'est à partir des dits du prophète, à partir des exemples tirés de sa vie, à partir des dits des compagnons, si le prophète n'a rien dit de particulier, c'est-à-dire en particulier des quatre premiers califes, c'est à partir de là que se fonde ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire la loi de l'islam et la manière dont les musulmans, en principe, doivent se conduire.
Et ces choses-là se stabilisent ou se standardisent, si je puis dire, ça ne se fait qu'à partir du calife Al-Mu'tasim, le frère de Al-Mamoun.
Voilà.
Mais avant... Quand on est, voilà, puisque nous sommes arrivés à Al-Mansour, donc le bâtisseur ou le fondateur de la ville de Bagdad, après il va y avoir deux autres califes qui n'ont peut-être pas été connus si quand même, c'est à vous de nous le dire, mais il y aura Haroun al-Rachid immortalisé par les mille et une nuits.
Voilà. Alors, c'est vrai que dans la liste des grands califes abbassides, parce que là nous sommes à l'apogée hein, du califat abbasside.
Et en phase ascendante.
Voilà, et en phase ascendante, entre 750 et 860 à peu près, nous sommes dans la phase ascendante. Il y a une place particulière pour le fameux Haroun al-Rachid, Aaron, hein, le bien guidé, hein, c'est ce que veut dire Haroun al-Rachid. Haroun a une place particulière à cause, comme vous l'avez bien dit, des mille et une nuits, hein, qui est un texte dont probablement l'élaboration commence seulement au Xe siècle et qui sera poursuivi probablement jusqu'au XVe siècle au Caire, donc très 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 loin après. Mais pourquoi a-t-il, lui, une place particulière ? Probablement parce que c'est le dernier calife avant les premiers gros accrocs de l'histoire de la dynastie abbasside, en particulier la guerre civile entre ses deux fils. Une guerre civile ravageuse, et dans tous les sens du terme, puisqu'elle va détruire Bagdad. Il se trouve que c'est de nouveau l'Iran, en l'occurrence le calife Al-Mamoun, qui part, comme l'avait fait la dynastie abbasside à ses débuts, du nord-est de l'Iran, qui va l'emporter sur le calife en place, établi à Bagdad, son frère Al-Amin. Al-Amin sera tué et Bagdad très largement ravagée, hein, à demi détruite par le siège que lui font subir les armées d'Al-Mamoun. C'est ce qui explique sans doute.
Parce que tout simplement Al-Amin n'avait pas respecté un fameux pacte.
Absolument.
Scellé devant la Kaaba.
Devant la Kaaba, oui. Il n'était pas le premier à tenter de ne pas respecter ce pacte. On est à une époque où on a encore du mal, la dynastie, j'entends Abbaside, a encore du mal à passer de la succession de frère en frère, qui est plutôt la succession privilégiée et dans la tribu et dans la rasabia, comme dirait Ibn Khaldoun originel, c'est-à-dire dans le mouvement politique originel. Hein, on passe la succession passe de frère en frère, comme dans l'Arabie Saoudite jusqu'à aujourd'hui, à la succession de père en fils. Et presque tous les califes essayent de privilégier la succession de père en fils, tandis que presque tous les pères et les frères essayent d'imposer la succession de frère en frère, et c'est un de ces épisodes auxquels Haroun s'est heurté. Il a voulu en effet faire en sorte que le conflit n'éclate pas entre ses deux fils, en faisant inscrire son testament et l'accord qu'il avait obtenu des deux sur le papier sur le parchemin plutôt probablement, et le suspendre à la Kaaba, à la Mecque, pour lui donner une solennité évidemment particulière à cet arrangement.
Sacralisant.
Et naturellement, malgré tout cela, Al-Amin a essayé d'imposer son fils au détriment de son frère Al-Mamoun, ce que Al-Mamoun n'a pas toléré, et d'où la guerre civile. Voilà.
Il y aura après un moment de répit d'une vingtaine d'années, de 813 à 833, sous Al-Mamoun.
Voilà.
Et là, c'est le grand mécène des arts, de la culture, de la connaissance, avec Al-Mamoun.
Absolument. Alors c'est le moment où l'Empire devient véritablement, totalement, complètement l'Empire.
Il connaîtra un apogée extraordinaire.
Un apogée extraordinaire parce qu'il met, c'est pas dans les pas des empires qui l'ont précédé, c'est-à-dire qu'il ramasse en réalité tout le patrimoine de l'humanité. C'est bien l'ambition d'Al-Mamoun. Il y a chez lui indiscutablement un intérêt personnel pour la science et la philosophie grecque, mais il y a l'intérêt politique de faire de Bagdad tout simplement le centre et la capitale du monde connu bien entendu. Alors la Chine lui échappe un peu, mais c'est à peu près tout. Mais c'est à peu près tout. Presque tout le reste est centré, l'Amérique totalement, bien sûr, mais tout le reste est centré sur Bagdad. Un seul épisode, il y en a beaucoup, il y a énormément de choses, mais Al-Mamoun fait recalculer la surface de la Terre. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de ces astronomes, dont il est intéressant de noter que l'un vient d'une communauté qui n'est pas encore musulmane, ce qu'on appelle les Sabéens, voilà, et les autres viennent d'Asie centrale. hein, qui est indiscutablement Al-Ferghani, donc du Ferghana, hein, de la région du Tadjikistan, Ouzbékistan d'aujourd'hui, et Al-Khwarizmi, le fameux Al-Khwarizmi, qui vient du Khwarizm, donc de l'extrémité nord de l'Ouzbékistan d'aujourd'hui.
Sociétaire de la fameuse maison de la sagesse à
voilà,
Bagdad.
Hein, il crée, semble-t-il, une sorte d'institut de recherche. On l'a nié que ce soit véritablement un CNRS moderne, un CNRS ancien. Mais en fait, il y a quelque chose. Et disons qu'il y a un intérêt politique pour la récupération et l'expansion du savoir, parce que cette récupération et cette expansion sont du devoir de l'Empire, d'un Empire universel, hein, d'un Empire qui est, en effet, comme vous le disiez il y a un instant, un Empire monde. Et c'est sur ces dimensions du monde que partira Christophe Colomb, hein, en 1492, parce que cette mesure de la Terre, elle est assez difficile à faire, elle est faite selon le calcul d'Ératosthène, hein, du 3e siècle avant Jésus-Christ, mais ce calcul de la circonférence terrestre demeurera valide aux yeux des, on va dire, d'une vaste humanité méditerranéenne, aussi bien occidentale qu'islamique, donc jusqu'à ce que on ne refasse les calculs au 16e, 17e siècle surtout.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Gabriel Martinez-Gros et nous parlons de l'Empire Abbasside, de la dynastie Abbasside. Après avoir connu donc cet apogée en gros avec le calife Al-Mamoun et peut-être un peu aussi avec
ses successeurs
et notamment Al-Mu'tasim, les problèmes politiques surgissent ou s'aggravent et puis l'Empire va craqueler.
Paradoxalement, sans doute, une des raisons de ce craquellement, c'est-à-dire le fait que peu à peu les provinces, en particulier les provinces les plus lointaines, les provinces extérieures, vont se détacher de l'autorité politique de l'Empire, c'est la conversion à l'islam, sur laquelle on n'insiste pas beaucoup ou pas assez, mais c'est à l'époque abbasside que probablement une très large part, une grosse minorité ou une petite majorité de la population du monde islamique se convertit à l'islam dans ces deux siècles et demi à peu près, hein, qui vont de 750 à l'an 1000. Il faut peut-être préciser ce qu'est la population mondiale et ce qu'est par conséquent la population de l'Empire abbasside. Hein. La population mondiale, c'est nous sommes après les premières pestes. La pandémie probable de la variole, l'expansion de la variole sur l'ensemble du monde, depuis la Chine jusqu'au monde méditerranéen. La population mondiale, on l'estime aux alentours de 750 à 220, 230 millions d'habitants. C'est 30 fois moins qu'aujourd'hui, hein, bien sûr. L'Empire abbasside, c'est peut-être 40 millions d'habitants. C'est presque 20% de la population mondiale. Hein, 17-18% de la population mondiale. C'est donc colossal. Et cela explique que Bagdad est atteint très probablement une population, en tout cas de plusieurs centaines de milliers d'habitants, certaines disent davantage. C'est cette population qui peu à peu passe à l'islam. Et ce passage à l'islam fait curieusement que les particularités locales passent aussi dans l'islam et y trouvent une légitimité. Vous avez désormais une légitimité à affirmer une identité locale puisqu'elle est musulmane.
Hein? Aux confins de l'Empire, il y a des velléités d'indépendance, de fait, c'est les gouverneurs et puis Très brièvement, on a les Idrissides au Maroc, enfin l'actuel Maroc,
voilà.
Les Rustimides et puis plus tard les Fatimides dans l'Afrique dite centrale, donc
voilà,
en Algérie,
voilà.
Les Aghlabides en Tunisie cyrénaïque, les Ptolonides en Égypte.
Voilà.
Plus à l'est, on a les Tahirites, puis les Bouyides, etc. Donc, de fait, on a des dynasties,
voilà.
Même si elles sont vassales du calife de Bagdad, mais elles prennent petit à petit leur autonomie.
Voilà. Et c'est un peu plus vrai au Maghreb qu'en Orient. Le régime, la dynastie, qui est née en Iran, hein, dont le mouvement fondateur est né en Iran, a toujours été un peu plus tourné vers l'Est, hein, c'est-à-dire Irak, Iran, hein, c'est ça l'Est du monde islamique, puis au-delà Asie centrale, voire les confins de l'Inde que le monde abbasside a abordé, que vers l'Ouest. Et en particulier, le Maghreb a été très tôt détaché de l'Empire, hein, pratiquement dès sa fondation, hein, dès 750. Les territoires actuels de l'Algérie, du Maroc et l'Espagne n'ont jamais obéi à l'autorité abbasside, on peut le dire, hein, des 750.
Ou très peu, avec très cette idée de louer abondamment lors de la prière du vendredi le calife,
voilà.
et en battait monnaie à l'effigie du calife.
Tout au plus, oui, ça c'est en Tunisie. Et la Tunisie, enfin l'Ifriqiya comme on dit au Moyen-Âge, l'Ifriqiya se détache l'une des premières, hein, dès l'an 800, hein, de l'autorité réelle du califat, c'est-à-dire que la levée de l'impôt et l'entretien des troupes appartiennent à des gouverneurs héréditaires, hein, qui réclament en effet, comme vous le disiez il y a un instant, de Bagdad, un diplôme d'investiture au moment où ils se succèdent, mais qui de fait sont indépendants.
Les premiers temps, les Aghlabides payaient tribut.
Voilà. Dans les premiers temps, les Aghlabides, qui sont donc ces gouverneurs héréditaires de Tunisie, payent tribut, et puis ensuite ils cessent de le faire, et puis ensuite, évidemment, les choses deviennent plus difficiles pour l'Empire abbasside. Mis à part la conversion à l'islam, et là, les Aghlabides, par exemple, s'appuient sur des forces berbères, hein, dans la région de l'actuel sud-est de l'Algérie, enfin qui viennent de la région de l'actuel sud-est de l'Algérie. Mis à part cette conversion à l'islam, qui curieusement accroît les difficultés politiques de l'Empire, il y a bien entendu le problème général que l'Empire romain avait rencontré des empires, qui est la croissance de l'appareil d'État, et en particulier de l'appareil militaire, assis sur une société qui reste au total, hein, largement l'héritière des sociétés de la fin du néolithique ou des premiers millénaires de l'histoire, ces premiers millénaires de l'histoire qui se sont déployés précisément dans cette région du Moyen-Orient, c'est-à-dire une société de village, hein, et ces empires très très brillants qui concentrent une part considérable de la richesse dans leur capitale, qui ont des armées professionnelles, qui coûtent très cher par conséquent, hein, et ces armées professionnelles sont d'abord destinées à prévenir, à garantir le pouvoir contre l'agitation des tribus ou l'insubordination d'une aristocratie. Ces empires, donc, qui payent des armées, qui nourrissent des capitales, considérable, repose au total et toujours, même si le commerce joue dans l'Empire abbasside un rôle tout à fait essentiel probablement, repose au total et toujours sur une structure rurale qui n'a pas beaucoup changé depuis 2 ou 3 millénaires. Hein, et donc, tôt ou tard, le poids de ces empires écrase un peu la population, en particulier la population rurale qui paye l'impôt, hein, dont tout dépend.
À un moment donné, il va y avoir 3 califats.
Voilà. Alors,
donc, le califat de Cordoue, d'Occident, dit certains.
Voilà.
Le califat fatimide et le califat abbasside.
Voilà. Alors, petit à petit, donc, l'autorité des abbassides se retire des territoires les plus lointains pour se concentrer finalement sur le cœur de l'Empire, c'est-à-dire l'Irak, l'ouest de l'Iran, dans une certaine mesure la Syrie, et puis, comme vous l'avez dit, dès l'Égypte, déjà, hein, à la fin du 9e siècle, il commence à y avoir là aussi des gouverneurs indépendants d'origine turque, d'ailleurs, c'est-à-dire originaires de l'armée, hein, tout simplement, des Abbassides qui étaient essentiellement constitués de Turcs d'Asie centrale, hein, bien sûr. Et donc, c'est du Maghreb, des provinces dont les Abbassides ont été les moins sûres depuis l'origine, c'est du Maghreb que vont venir les défis politiques majeurs, avec la proclamation en 929 d'un califat omeyyade en Espagne. Je mets l'Espagne dans le Maghreb, hein, il faut le mettre dans le Maghreb, et en Tunisie en 909.
Enfin, quelqu'un... c'est Faradi.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et en 909, donc, la proclamation en Tunisie du califat chiite des Fatimides. Là, c'est un des moments, justement, où les Abbassides vont rompre avec cette idéologie chiite, tout simplement parce que il existe des pouvoirs chiites qui les repoussent, donc, vers, ça tombe bien, les vœux de leur capitale, de la capitale abbasside, c'est-à-dire les vœux de Bagdad, c'est-à-dire l'idéologie du sunnisme.
Alors, dans mes lectures, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, le calife de Bagdad avait moins de pouvoir que les autres califes rivaux, le Fatimide et l'Omeyyade, avec le jeu de l'exécutif entre les mains des vizirs, etc.
Oui.
Il en aura davantage de pouvoir qu'après la disparition, en tout cas de l'émirat ou du califat d'Occident Omeyyade.
Voilà.
Quand il n'y en avait plus, le califat Fatimide.
Vous avez tout à fait raison, une des caractéristiques peut-être, mais c'est probablement un des avantages, une des forces du califat abbasside, c'est qu'il a réussi à s'adapter à la perte du pouvoir, en somme. Hein. C'est-à-dire que, à partir du milieu du Xe siècle, ce sont les militaires, hein, disons, hein, ou bien des ethnies, les Daylamites, ce ne sont pas exactement des Persans, qui représentent l'essentiel des forces militaires du califat, qui exercent la réalité du pouvoir à Bagdad, mais tous... Même ceux qui sont chiites, parmi eux, il y en a en particulier ces bouillides d'Aïlamites originaires du nord de l'Iran, tous respectent le califat des Abbassides, ce qui va lui permettre de survivre bien au-delà de ses rivaux omeyyades, puisque le califat des Omeyyades va tomber au milieu du XIe siècle, ou Fatimide, le califat des Fatimides tombera, hein, le califat chiite ismaélien des Fatimides tombera à la fin du XIIe siècle. Les Abbassides, eux, survivent, et ils survivent parce qu'ils ont réussi à installer, à partir de, on va dire, du XIe siècle, là nous avons avancé rapidement, à partir du XIe siècle, ils ont réussi à installer une espèce de double pouvoir. Alors, ça nous rappelle à nous, occidentaux, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Hein. Il y a, de fait, des militaires ou des Turcs. Hein, les Turcs.
L'introduction de l'élément turc est passée par cette garde prétorienne que les califes voulaient confier à... au Turc et pas à l'élément arabe.
Très tôt, oui. Hein, bien sûr. Hein, c'est à l'époque d'Al-Mamoun et d'Al-Mu'tasim, donc oui. À l'apogée absolue du califat, que les Turcs arrivent. Alors, il s'agit, encore une fois, non pas de Turcs de la Turquie d'aujourd'hui, hein, bien sûr, il n'y a pas de Turcs dans la Turquie d'aujourd'hui, c'est l'Empire byzantin, hein, la Turquie d'aujourd'hui, à cette époque-là, au IXe siècle. Ce sont des Turcs d'Asie centrale, c'est-à-dire ceux que nous appelons aujourd'hui des Ouzbeks, ou des Kirghizes, ou des Kazakhs. Hein. C'est ça, les Turcs qui arrivent à Bagdad en tant que soldats, ou plus plutôt mieux, hein, j'allais dire presque la grande innovation militaire et politique de l'islam, en tant qu'esclave soldat, en tant que mamelouk, puisque c'est ce que veut dire mamelouk, ils arrivent donc achetés très jeunes, de telle sorte de couper les liens de fidélité avec leur propre tribu et de telle sorte qu'ils puissent reporter ces liens de fidélité, d'affection envers leur nouveau père, hein, leur père adoptif qui est le calife, hein, bien sûr. Et donc, cette institution des Mamelouks va traverser toute l'histoire de l'islam. Ce sont effectivement les Abbassides qui l'inventent, hein, au IXe siècle, à l'apogée de leur pouvoir. Et les derniers Mamelouks, ce sont les Janissaires ottomans, hein, qui sont... liquidé, on peut dire, par le sultan Mahmoud II en 1826 seulement. Donc, en gros, c'est pendant 1000 ans que cette institution des Mamelouks va caractériser tous les grands pouvoirs de l'islam. Hein, quels avantages y trouve-t-on ? Essentiellement un avantage de fidélité. Hein, ces Mamelouks sont très généralement très dévoués. Tant pis pour ceux qui pensent que l'esclavage suscite essentiellement la révolte. Ben non, en l'occurrence, ces esclaves, soldats qui sont en effet élevés très très jeunes et, dans les casernes et dans les palais, les esclaves du sérail, en quelque sorte, comme on dira plus tôt à l'époque ottomane, ces esclaves sont en général d'un dévouement absolu à celui qui les a achetés, qui les a élevés aussi, bien sûr, hein, qui a joué le rôle en effet du père. Il y a très peu d'exemples de trahison. En revanche, ils sont très chers. Ils sont très chers parce qu'on les achète cher, on achète des enfants beaux et forts, on achète des enfants qui malheureusement, en général on les achète entre 8 et 14 ans, hein. On achète des enfants qui n'ont pas surmonté toutes les maladies de la puberté, les maladies de l'adolescence. On achète quelquefois des filles avec, hein, parce que on veut maintenir une entre guillemets race guerrière et active dans les réserves du califat. Et pendant de nombreuses années, ils sont élevés, ils sont pas très nombreux, ils sont quelques milliers, mais tout de même, hein, dans une société à la limite de la pénurie, une société qui, comme nous le disions, reste une société rurale, hein, fondamentalement, ils sont élevés à ne rien faire, ils sont élevés au métier des armes, hein, bien sûr.
Et l'ironie du sort fera en sorte que les califes abbassides, après la chute de Bagdad, viendront sous la tutelle des Mamelouks,
voilà,
des esclaves affranchis cette
fois-ci. Absolument. Des esclaves tout à fait affranchis. Oui, ils sont en effet affranchis au moment où ils affrontent
et détenteurs du pouvoir.
Leur fonction militaire et détenteurs du pouvoir, inévitablement.
Alors, il va y avoir 37 califes qui se succéderont sur le trône sur 5 siècles,
oui,
dans l'Empire abbasside. Maintenant, on commence à connaître des déboires. Il y a des califes qui ne restent pas plus d'un an, d'autres un peu plus, et petit à petit, il va y avoir, si nous devions parler des Seldjoukides, véritablement le pouvoir est entre les mains des sultans.
Voilà, alors, ce qui faisait la force devient la faiblesse. Ce qui a fait la force du califat abbasside, c'est en effet, outre son éclat intellectuel extraordinaire au 9e, 10e siècle en particulier, c'est d'avoir réussi à installer cette dualité du pouvoir entre le califat, qui restait le symbole tout simplement de l'islam, hein, parce que le calife était un parent du prophète, hein, tout simplement, il était un témoin des premiers âges, hein, les fonctions militaires et d'administration réelle de l'Empire, qui étaient confiées souvent, en effet, à des serviteurs d'origine étrangère, entendant étrangère aux Arabes et étrangère à la tribu des Quraysh, d'où les Abbasides étaient issus, comme le prophète lui-même. Mais petit à petit, évidemment, hein, ce qui était cette force devient une faiblesse, c'est-à-dire que la réalité du pouvoir appartient au sultan, la réalité du pouvoir n'appartient plus aux Abbasides. On les révère, on les admire, ils sont à la fois distants et honorés, mais de fait, ils n'exercent plus la réalité du pouvoir. Celui qui exerce, en effet, très officiellement, on va dire, à partir du milieu du XIe siècle, la réalité du pouvoir, c'est celui qu'on appelle désormais le sultan, d'un vieux mot arabe, hein, et même sémitique, hein, qui veut dire l'autorité, hein, tout simplement.
Le détenteur de l'autorité.
Mais ce sultan, il est généralement turc. Au point que, pratiquement, hein, le mot va évoquer, hein, le souverain turc, hein, et jusqu'à l'époque ottomane, c'est le titre que vont porter.
Il y avait une période où il y avait ce titre de le prince des princes au commandeur en chef de l'armée, Amir al-Umara.
Amir al-Umara, c'est effectivement le titre un peu intermédiaire avant que celui de sultan ne s'impose. C'est celui que portent les détenteurs réels du pouvoir entre le milieu du 10e et le milieu du 11e siècle, hein, en particulier dans cette dynastie issue d'Iran qu'on appelle les Bouyides, hein, qui viennent du nord, hein, des montagnes du nord de l'Iran, puisque la plupart de ces, selon le système d'Ibn Khaldoun, évidemment, la plupart de ces dynasties militaires sont originaires des provinces les plus marginales et les plus sauvages, hein, bien sûr, de l'empire des montagnes ou des déserts, hein, bien sûr. Les montagnes pour les Daylamites bouyides et les déserts froids de l'Asie centrale pour les Turcs, pour les Seljoukides. Donc effectivement, voilà, c'est petit à petit le sultan s'impose comme la réalité du pouvoir. Et le calife ne sera jamais écarté, du moins jusqu'à la conquête ottomane, puisque, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, même après la conquête de Bagdad et sa destruction, sur laquelle on va revenir, bien j'imagine, sûr, par les Mongols, un Abbasside, ou les Abbassides, une partie de la famille Abbasside, se réfugie au Caire sous l'autorité des Mamelouks, et jusqu'à la fin du régime dit des Mamelouks, en 1517, au Caire, jusqu'à la conquête ottomane du Caire en 1517, il y a un calife Abbasside auprès du sultan Mamelouk. Donc le califat Abbasside n'a jamais disparu, sauf à l'époque ottomane. Alors, ceux qui les suppriment sont les Ottomans, jusqu'au moment où, au XVIIIe siècle surtout, ces Ottomans vont reprendre même le titre de calife à leur propre compte. Mais la dynastie abbasside va disparaître à ce moment-là.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Gabriel Martinez-Cros et nous parlons de l'Empire Abbasside, de la dynastie Abbasside, de ses califes, du temps de leur apogée, mais aussi du temps de leur déclin en cette dernière partie, indépendamment de l'essor culturel, intellectuel, etc. Les difficultés politiques s'amoncellent. Et à un moment donné, il va y avoir la poussée des Mongols.
Voilà. Alors, c'est un terrible événement, sans doute un des très grands événements de l'histoire du Moyen-Âge, peut-être le plus grand événement de l'histoire médiévale, puisque nous en sommes à l'apocalypse aujourd'hui, ou presque, et que le monde va disparaître dans quelques dizaines d'années, paraît-il. Disons très clairement que, avec la peste du milieu du XIVe siècle, les invasions mongoles ont été ce que les contemporains pouvaient imaginer de plus proche de l'apocalypse, hein. C'est-à-dire une étendue de massacres dont nous n'avons, surtout pour des populations qui restent relativement limitées, dont nous n'avons aucune idée aujourd'hui. Hein. Je veux dire, on ne sait pas quelles ont été les pertes infligées par les invasions mongoles, mais il s'agit de plusieurs dizaines de pourcents, hein, des populations des mondes envahis, qu'il s'agisse de la Chine ou qu'il s'agisse de l'islam, puisque ce sont les deux victimes principales, hein, des invasions mongoles. Ce qu'il faut dire tout de même sur ces invasions mongoles, c'est qu'elles ne sont nouvelles qu'en apparence ou qu'en partie, hein, parce que les invasions mongoles, c'est la suite de la présence turque. Hein, les Mongols sont des cousins des Turcs, ils viennent des mêmes...
C'est pour ça qu'on parle des Turco-Mongols.
Voilà, absolument, ils viennent des mêmes régions du monde, et ils étaient pour l'essentiel employés aux mêmes fonctions par les deux grands empires que je viens d'évoquer très rapidement, c'est-à-dire l'Empire chinois, qui a probablement été le premier, dès l'époque des Han, c'est-à-dire les alentours de l'ère chrétienne, à employer des soldats d'origine turco-mongole, ou Tungus, comme on dit aussi, c'est-à-dire Manchou, si vous voulez, et l'Empire islamique, hein, qui les a employés à partir de l'époque de l'apogée abbasside. Et donc, petit à petit, ces deux empires ont créé sur leur marge septentrionale, puisque ce sont celles-là qui sont supposées être les marges militaires, les marges sur lesquelles on recrute les meilleurs guerriers, les meilleurs soldats. Ils ont créé une sorte de société militaire, plus exactement une sorte de société guerrière, ne confondons pas trop guerriers et militaires. Ils ont créé des tribus d'autant plus sauvages qu'elles sont appelées à la sauvagerie par les grands empires. Hein. La civilisation des empires, disons-le franchement, hein, l'extraordinaire raffinement tant de la Chine des Song que des Abbassides, se paye d'un désarmement général des populations soumises qui sont appelées à payer l'impôt et à produire et d'un appel à la sauvagerie guerrière hein, des populations du nord du monde hein, essentiellement et donc des Turcs et puis des Mongols et il y a un moment où la créature vous échappe hein, tout simplement et où la créature prend les choses en main par elle-même. Déjà les invasions turques au XIe siècle avaient été très durement ressenties hein, dans le centre du monde islamique, en particulier en Iran et en Irak, et les invasions mongoles le seront encore infiniment plus. Ce qui change évidemment, c'est que les Mongols ne sont pas musulmans.
Paraît-il que certains, une bonne partie d'entre eux, est reparti musulman ou s'est islamisé de par le contact
bien
avec
sûr.
Les musulmans.
Bien sûr, bien
On
sûr.
On dit que c'est le second événement du même ordre, le premier étant Rome et Athènes, et là les Mongols avec le contact.
Tout à fait. Les Mongols vont disparaître étrangement en un siècle après avoir construit un empire extravagant, extraordinaire, probablement avec l'Empire britannique, mais plus encore que l'Empire britannique au XIXe siècle, le plus grand empire du monde, puisqu'il allait depuis la mer de Chine jusqu'à la Pologne, mais en un siècle tout disparaît, tout simplement parce que les Mongols se convertissent aux civilisations qu'ils ont envahies et très largement saccagées, hein, aux religions ou aux pratiques à la fois de la Chine, pour ce qui concerne ceux qui ont envahi et dominé la Chine, ce qu'on appelle la dynastie Yuan, au XIIIe, XIVe siècle, et de l'islam dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire ceux qui ont établi leur pouvoir justement sur l'Irak et sur l'Iran, là où était l'Empire abbasside. Mais ils détruisent Bagdad. Oui.
Et ils détruisent Bagdad le 10 février 1258,
oui.
La date
oui.
retenue.
Oui, oui.
Et on dit que les ouvrages de cette maison de la sagesse, ou ce qu'il en
Absolument.
Reste, ont été jetés dans le Tigre.
Absolument. Non, il est probable que c'est une catastrophe sans nom. Hein. Je veux dire que, en effet, d'abord, pratiquement toute la population, à l'exception de ceux qui trouvaient des intercesseurs et des défenseurs parmi les généraux mongols, il semble que les chrétiens de Bagdad aient réussi à le faire, puisqu'il y avait des généraux chrétiens parmi les Mongols, toute la population a été exterminée systématiquement, hein, je veux dire, avec une sorte de méthode. Et on pense qu'il y avait environ 70 000 habitants à Bagdad. On a mis 7 jours, hein, enfin les Mongols ont mis 7 jours et 7 nuits pour exterminer systématiquement la population. Alors pourquoi cette extermination qui était fréquente dans les premiers âges de l'époque mongole, une cinquantaine d'années auparavant, mais qui devient rare à l'époque où elle est pratiquée à Bagdad, tout simplement parce que Bagdad est justement une capitale du monde. Et que il s'agit de l'éliminer purement et simplement. Il s'agit de faire en sorte que ce pouvoir dont l'universalité, le pouvoir des califes abbassides, dont l'universalité défie la domination mongole, que ce pouvoir et cette ville disparaissent totalement.
À commencer par le calife et sa famille, et
Oulagou
lui-même s'en charge en ce qui
oui.
concerne le calife.
Absolument.
Maintenant que nous approchons du terme de l'émission, que reste-t-il de l'Empire abbasside? Bon, certes, 5 siècles, c'est une étendue dans le temps relativement grande. Le sunnisme se constitue, les 4 écoles juridiques sont là, les maîtres éponymes, on les connaît. Du point de vue de la civilisation elle-même, tiens, à propos de cette fameuse anecdote réelle ou supposée, le Harun al-Rashid et Charlemagne, l'échange d'ambassade, y a-t-il une vérité historique ou il y a quelque chose qu'on a brodé dessus?
Il y a une vérité historique, un échange d'ambassade un peu lointain. Le seul problème que la conscience occidentale entretient à propos de cette ambassade, c'est de penser que Harun al-Rashid est un pouvoir marginal et Charlemagne le pouvoir central. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire, étant donné la taille des empires. Hein. C'est-à-dire que l'empire abbasside est entre deux et trois fois peuplé, plus peuplé probablement que l'empire de Charlemagne tout de même à cette époque. Alors qu'est-ce qu'il en reste ? Il en reste en particulier le fait que la quasi-totalité... Alors si vous en tenez au texte, hein, je m'en excuse d'avance auprès de Yannick Lins et du département des arts de l'islam, bien entendu, mais si vous vous en tenez au texte, la quasi-totalité des textes les plus originaux qu'a produit la civilisation de l'islam, la quasi-totalité des grands auteurs jusqu'à l'époque de la Narda, sont de cette époque. Et ne nous y trompons pas, malgré l'éclat de la culture persane dans les siècles postérieurs, malgré l'Empire ottoman, quand Hagi Khalifa, au milieu du XVIIe siècle, un fonctionnaire turc qui s'ennuyait dans son gouvernorat d'Alep, fait la liste de tous les livres qui ont été publiés dans l'histoire de l'islam depuis ses origines, à la fois en turc, puisqu'il connaît le turc, en persan, puisqu'il connaît aussi le persan, et en arabe, puisqu'il connaît aussi l'arabe. C'est un véritable lettré, il contrôle les trois principales langues de culture de l'islam du XVIIe siècle. Eh bien, environ 75 à 80% de cette littérature, c'est de la littérature en langue arabe, en particulier de la littérature abbasside. Alors, il y a un deuxième pic, mais qui est un pic plutôt compilateur, hein, c'est le pic mamelouk au Caire. Entre 13e et 15e siècle, où on reprend les grands noms de la littérature abbasside, mais il est très évident que, par exemple, si vous lisez, je reviens toujours à mes amours, si vous lisez l'introduction d'Ibn Khaldoun, le plus grand historien de l'islam, les seuls historiens qu'il va citer et auxquels il accorde une certaine attention, Ibn Khaldoun ne brillait pas particulièrement par sa modestie, les seuls sont les historiens abbassides, évidemment.
Dont Tabari.
Donc, bien sûr, au premier rang.
1923,
au premier rang, Tabari, bien sûr, tout à fait. Alors, il reste un modèle. Voilà. C'est le modèle de l'Empire.
Et donc, après l'Empire abbasside, il y aura plus proche de nous dans le temps les trois empires ottomans, safavides et moghols.
Voilà.
Ils copient plus ou moins, il y a cette nostalgie de l'Empire abbasside.
Totalement.
Bien. Et du point de vue de la fameuse science, l'âge d'or de la science islamique, l'éclosion et puis la consolidation, c'était aussi sous l'Empire abbasside.
C'est indiscutable. Si vous examinez, par exemple, au début du XXe siècle, où sans doute le regard est trop étroit, mais si vous examinez un livre comme celui de Kara Devaux, Les penseurs de l'islam, la quasi-totalité de ces penseurs, alors c'est excessif, hein, mais la quasi-totalité de ces penseurs vivent entre le 9e ou le 8e, 9e plutôt, et le 13e siècle. Hein. Pratiquement, et c'est excessif, hein, indiscutablement, on arrête l'histoire de la philosophie islamique, voire l'histoire de la science islamique, disons à Nasser ad-Din Tusi, le grand vizir de l'astronome, et sans doute le plus grand astronome du Moyen-Âge, hein, donc dans la deuxième moitié du 13e siècle. Hein. Voilà, c'était indiscutablement cette époque abbasside. Alors, c'est excessif, parce que c'est vrai que ce que entendre par là les auteurs occidentaux, c'est à partir du XIIIe siècle, nous prenons le relais, c'est-à-dire l'Occident prend le relais. Hein. Et donc, pour que l'Occident prenne totalement le relais, il faut éliminer toute existence hein, de la science ou de la culture islamique. Mais en large part, c'est vrai, il y a là un éclat extraordinaire, hein, sur lequel peut-être on n'a pas assez insisté. Je veux dire que sans les Abbassides, la science grecque aurait presque à coup sûr totalement péri. Hein. La moitié de ce que nous savons d'Archimède, des livres d'Archimède que nous possédons, nous les possédons à travers leur traduction arabe. Nous avons totalement perdu l'original grec.
Et entre autres, et pas uniquement, grâce aussi au calife Al-Mamoun et ce que d'aucuns appelaient le mécénat d'État sous son règne. Merci infiniment, professeur Gabriel Martinez-Gros.
Merci à vous, Raleigh.
Merci de nous avoir édifié en parlant de ce grand empire qu'est l'empire abbasside. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abgral. La prise de son est assurée par Valérie Lavalard et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lina.
Sang Chu, Pai Yu Sa Ta.